C'est l'heure de l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Rung.
Bonsoir. Clôture mardi dernier à Kinshasa de la conférence des ministres provinciaux de l'enseignement primaire et secondaire. La guerre à l'Est doit cesser pour permettre aux élèves et enseignants de reprendre le chemin de l'école. C'est l'une des recommandations de cette conférence qui avait pour objectif d'évaluer les actions menées au cours de l'année scolaire précédente et les perspectives pour l'année scolaire 2012-2013. À quelques jours de la rentrée scolaire, où en est-on avec les préparatifs? Quel pourrait être l'impact de la conférence des ministres provinciaux de l'EPSP sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants en RDC? Nous recevons comme invité Jovin Mukadi, conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Monsieur le conseiller Mukadi, bonsoir.
Bonsoir Alain.
Jean Bosco Pouna, secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques Sinecat. Monsieur Pouna, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Il est en ligne, lui, c'est le professeur Massia Lamassolo, professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC. Il est ministre honoraire de l'Éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Professeur Massia, bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Merci, chers auditeurs internautes, pour vos réactions. Soyeux de Bukavu Sud qui vous, en ces temps critiques, les ministres devraient mener des actions concrètes sur le terrain pour que la rentrée soit effective sur toute l'étendue du pays, au lieu de chercher à organiser des conférences qui ne vont rien apporter de concret. Henri Doumbo Kangela de Kisangani en province orientale, que dit le gouvernement sur la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles primaires de la RDC pour l'année 2012-2013? Quels sont les mécanismes mis en place pour la rentrée scolaire 2012-2013 à l'est de la RDC, précisément dans la zone de combat? Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
La guerre à l'Est doit cesser pour permettre aux élèves et enseignants de reprendre le chemin de l'école. C'est le credo lancé par les ministres provinciaux de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel mardi dernier à Kinshasa à la clôture de leur conférence. Une conférence qui avait pour objectif d'évaluer les actions menées au cours de l'année scolaire précédente et les perspectives pour la nouvelle année scolaire 2012-2013. En 10 points, Thérèse Olinga, ministre provinciale de l'éducation et porte-parole du gouvernement provincial de Kinshasa, revient sur certaines recommandations issues de cette conférence au micro de Nadine Foula.
Après présentation, échange et débat, les conférenciers ont convenu de ce qui suit. Que les plans d'action et budgets provinciaux s'alignent sur la stratégie de l'EPSP et du plan intérimaire de l'éducation adopté et endossé par le gouvernement et que l'ensemble des partenaires se mobilisent pour une mise en œuvre efficace et réussie des réformes engagées. Que chaque province élabore un plan provincial intégré de l'éducation des SRP, plan quinquennal PIE, pour un meilleur suivi et évaluation des réformes. Que les administrations provinciales s'approprient les réformes amorcées dans les systèmes éducatifs, notamment l'application de la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics, le renforcement des compétences des élèves en lecture, écriture par l'organisation des bibliothèques scolaires, l'appui aux établissements scolaires et bureaux gestionnaires par l'allocation mensuelle des frais de fonctionnement, la formation continue des enseignants, la restructuration des bureaux gestionnaires, la politique de construction scolaire à moindre coût. Qu'on revienne à l'administration des non-originaires dans la mise en place des cadres provinciaux et sous-provinciaux de l'EPSP pour la dépolitisation de l'administration de l'EPSP.
Jovin Mukadi, je rappelle que vous êtes conseiller chargé de la coopération internationale au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Pour commencer, comment, dans quelle ambiance s'est déroulée cette conférence des ministres provinciaux de l'EPSP?
Merci beaucoup Alain. Je crois que cette conférence est la troisième que le ministère de l'EPSP organise. En fait, il s'agit là de maintenir un dialogue permanent entre les autorités de l'éducation du niveau central et du niveau provincial. L'ambiance a été très bonne, dans ce sens-ci que, en fait, tous les ministres provinciaux en charge de l'éducation ont répondu à cette conférence. Et c'était des échanges francs et le dialogue y était. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Et nous pensons que tout s'est bien passé parce que, en fait, l'idéal ou l'objectif poursuivi, c'est d'échanger autour des évolutions que nous avons connues pendant l'année scolaire 2011-2012. Quelles sont les réformes qui ont été mises en route? Où est-ce que nous en sommes? Et puis baliser le chemin pour l'avenir en commençant par l'année scolaire 2012-2013. Bien sûr, l'élément principal, c'était d'échanger autour du plan intérimaire de l'éducation 2012-2014 qui met en œuvre la stratégie du sous-secteur de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel adopté par le gouvernement en 2010.
Alors, un mot sur les recommandations que nous venons de suivre. Par exemple, on demande à chaque province, que chaque province élabore un plan provincial intégré de l'éducation, des CRP. Ne fallait-il pas carrément organiser, par exemple, les états généraux de l'éducation pour ça?
Je crois que nous ne sommes pas au niveau des états généraux. Il y en a eu des états généraux dans ces pays. Ce que nous recherchons, ce que le gouvernement recherche aujourd'hui, c'est avoir une vision de l'enseignement. Et nous l'avons. Maintenant, il faut un plan d'action. Nous l'avons. Donc, de sorte que tous les ministres provinciaux puissent s'imprégner d'abord de cette vision. C'est ce que nous avons fait pendant les deux premières conférences. Aujourd'hui que nous avons un plan intérimaire de l'éducation, il s'agit d'aller de l'avant. Il n'est plus question de rentrer aux états généraux. Maintenant, il faut aller de l'avant et que chaque province prenne le leadership dans la gestion de notre éducation. Et pour cela, nous avons plusieurs documents, instruments de planification dans notre pays. Vous savez, nous avons aujourd'hui les DCRP2, nous avons le plan intérimaire. Nous avons également des plans quinquennaux qui ont été élaborés au niveau de chaque province. Tout cela doit former au niveau du ministère, au niveau, disons, du secteur éducation, un outil unique qui permet à ce que toutes les actions que nous allons entreprendre, évidemment au niveau par le gouvernement, par les partenaires, puisqu'il s'agit en fait, quand on parle de l'éducation, il s'agit d'un secteur où le partenariat c'est le mode de gestion. Et toutes les actions entreprises aussi bien par le public que par le privé doivent s'aligner aux objectifs d'un plan unique.
Alors, il a été aussi dit que les administrations provinciales s'approprient les réformes amorcées dans le système éducatif, notamment la gratuité de l'enseignement primaire dans les établissements publics. À ce jour, quel est le bilan que vous pouvez dresser de la gratuité ou que les ministres provinciaux ont dressé de l'application de la gratuité de l'enseignement primaire?
Je crois que la gratuité, il faut qu'on en parle en termes des indicateurs. Nous avons le taux brut d'admission, par exemple, au primaire, qui est passé de 2,7% à 4,6%, 2,7 pour l'année scolaire 2008-2009, 3,5% plutôt pour l'année scolaire 2010-2011. Aujourd'hui, nous sommes par rapport aux statistiques de 2010-2011, nous sommes à 4,6. Ce qui donne déjà un avantage appréciable. Et il y a également le taux brut de scolarité, de scolarisation, qui a connu aussi un accroissement de 90%. Aujourd'hui, nous sommes à 93,6%.
Donc, concrètement, la gratuité se porte bien sur terrain.
Elle se porte bien, mais elle a aussi des difficultés. C'est pour cela que l'évaluation était importante. Les difficultés sont liées notamment à l'accroissement des effectifs par classe Évidemment, également, lié à cet accroissement, il y a le problème de la formation des enseignants par rapport à l'éducation de grand nombre. Donc, tout cela, bien sûr que c'était prévisible dès le début, puisque la gratuité n'est pas tombée comme cela. Il y a eu des études et c'était déjà connu. Et des solutions ont été proposées depuis et qui doivent être mises en œuvre depuis bientôt 2 ans que nous avons démarré le processus de gratuité.
Jean Bosco Pourna, vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques SINECAT. Comment vous avez accueilli l'organisation de cette conférence?
Oui, merci pour la parole que vous nous accordez. Comment nous avons accueilli l'arrivée et la tenue de cette conférence? Bon, nous pensons à notre niveau que ce sont des activités, des routines, des activités administratives, des activités liées aux charges du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. C'est une bonne chose que cette activité soit organisée. Ici, je crois que le conseil est revenu pour vous dire que c'est la 3e année que cette activité est tenue. Donc, je crois que c'est bon qu'on ait organisé cela. Mais ce qui est plus important, c'est que nous devrons maintenant évaluer les retombées de cette activité. Déjà, lorsque nous suivons les comptes rendus, l'on nous parle des recommandations. Alors, nous sommes en droit de nous demander les recommandations sont faites à qui? Parce qu'à notre sens, on aurait aimé que ça soit véritablement des résolutions. Donc, on doit prendre des résolutions pour partir du bon pied. Parce que le système éducatif congolais, il est malade. Il est très malade aujourd'hui. Et donc, il faut véritablement une thérapie qui puisse se passer des discours qu'on pouvait traduire en termes de slogans. Là également, on a fait une recommandation par rapport à la guerre. Mais il faut également dire que c'est véritablement un vœu pieux. Parce que le problème de la guerre, je ne pense pas que les ministres provinciaux qui sont venus en tournée et qui ne vont presque rien résoudre comme problème de fond par rapport à l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants, eh bien ça c'est véritablement un vœu pieux. La question relative à la guerre, c'est une question du gouvernement. Il faut absolument que le gouvernement puisse mettre toutes les batteries en marche pour que les enfants... On nous apprend aujourd'hui qu'il y a presque 280 écoles qui ont été pillées, incendiées dans la zone des conflits. Et donc, ces enfants ne seront pas en mesure de pouvoir aller à l'école. Donc, nous disons, par rapport aux conditions de vie, parce que lorsque vous parlez de la gratuité, il y a des principes qu'il faut respecter. C'est vrai qu'on peut parler de l'universalisation, de l'accès à l'école primaire, bien sûr, mais il y a également le problème de qualité. Comment atteindre la qualité? Vous pouvez avoir des taux de scolarisation qui changent, bien sûr, c'est bon, mais la qualité de l'enseignement. Parce que si nous n'avons pas un enseignement public de qualité, eh bien cette gratuité ne servira à rien.
Alors parmi les recommandations, on a suivi tout à l'heure, il y a par exemple qu'on revienne à l'administration des non-originaires dans la mise en place des cadres provinciaux et sous-provinciaux de l'EPSP pour la dépolitisation de l'administration de cette structure. Comment vous analysez cette proposition?
Bon, vous savez que le problème de l'éducation au Congo, c'est un problème véritablement complexe. Lorsqu'il faut aller dans les provinces, mais il faut commencer au niveau national. Les ministres qui gèrent le système éducatif congolais, mais il résulte d'une équation politique. Donc, vous comprenez déjà à ce niveau, il y a un véritable problème. C'est le militantisme qui amène des personnes à assumer les postes des ministères, les postes des ministres de l'enseignement. Et depuis tous les temps, c'est comme ça. On ne tire pas les véritables technocrates qui viennent du sérail. Donc, vous comprenez que là, déjà, il y a un problème. Lorsque vous prenez, par exemple, tous les recteurs qui gèrent nos universités, mais allez comprendre, c'est le militantisme politique. Donc, je crois que là aussi, c'est une recommandation qui ne va pas visiblement marcher, parce que depuis tout le temps, le ministère de l'EPSP, à quelques exceptions près, a toujours été géré par des politiciens et non par des technocrates de sérail.
Lambert Mwamba de Mbujima au Kasai Oriental, pour moi, cette conférence devrait aussi se pencher sérieusement sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire, car cette gratuité ne signifie pas seulement demander aux parents impayés ou sous-payés de ne plus payer les frais, mais aussi prendre totalement l'enseignement en charge. Comment un enseignant affamé avec ses propres enfants non scolarisés peut-il s'occuper convenablement des enfants des autres qui surpeuplent sa classe, Jean Bosco Pouna?
Bon, mais je crois que on planifie. Est-ce que la gratuité avait été planifiée? C'est une question que je pose. De l'autre côté, un enseignant affamé, hein, il est devant les enfants. Je crois qu'il ne saura pas faire son travail. Je crois que l'intervention est tout à fait acceptable, recevable. Donc, nous, au niveau des enseignants, nous avons toujours... Parce qu'aujourd'hui, là, la plupart d'enseignants au niveau primaire, ils ne seront pas à mesure. Ce sont des enseignants complètement démotivés. Parce que lorsqu'on déclenche la gratuité, il faut une contrepartie, il faut des solutions de réchange. Bon, il n'y a pas de solution de réchange. La gratuité est déclenchée depuis 2010. Lorsque nous faisons l'évaluation, nous nous rendons effectivement compte que c'est une gratuité sur fond de discrimination. Il y a des élèves de Kinshasa et de Lubumbashi qui sont discriminés. Mais là où la gratuité devrait fonctionner, il y a beaucoup de problèmes. L'année passée, par exemple, eh bien, on a tenté, mais finalement, lorsqu'il y a eu des mouvements des enseignants, les gouverneurs de province se sont encore arrangés pour que les parents continuent à prendre en charge les enseignants au détriment de la qualité, malheureusement.
Professeur Maciel Amasolo, vous êtes professeur de psychologie à l'UPN et à l'UPC, ministre honoraire de l'Éducation nationale et ancien conseiller du chef de l'État. Professeur, je vous aborde directement sur la question de la dépolitisation du secteur éducationnel. Jean Bosco Pouna a signalé tout à l'heure que pratiquement tous les ministres qui sont passés dans le secteur de l'éducation sont le fruit d'un calcul politique. Vous n'y avez pas échappé.
Échappé à ces calculs. Merci beaucoup. Et j'ai beaucoup apprécié l'action du syndicaliste, effectivement. Je n'ai jamais lésiné sur le terme de la dépolitisation du secteur de l'éducation qui n'obéit pas à la politique, qui doit obéir au réalisme du terrain, et j'apprécie que le ministre ait organisé trois fois de suite des rencontres avec ces lieutenants qui sont en province, qui sont réellement les vrais décideurs, et le ministre ratifie ce qui est décidé en province. J'étais discriminé à un moment donné quand je suis entré au gouvernement pour la première fois parce que je n'appartenais à aucun parti politique. J'ai été repêché par le fait que j'avais conduit les états généraux de l'éducation à l'époque. Et je suis resté à tout le temps que je suis venu au gouvernement comme un technocrate. Je n'ai jamais aimé le quota. J'aime l'excellence. J'aime que les méritants prennent les responsabilités et les assument. J'aime que ceux qui ont la compétence dans un domaine soient ceux-là. Ça, c'est l'éducation. Et l'autre secteur qui n'oblige pas la politisation, c'est l'agriculture. Lorsque vous devez planter, vous devez semer. Il faut obéir au rythme des saisons. Le rythme des saisons, il n'y a aucun parti politique qui le subordonne. C'est la nature.
Alors, professeur, oui. qu'est-ce que vous pensez de cette proposition qui voudrait qu'on revienne à l'administration des non-originaires dans la mise en place des cadres provinciaux et sous-provinciaux de l'EPSP pour dépolitiser l'administration?
C'est inutile parce qu'on a déjà essayé ça. Déjà au niveau provincial, administratif, politique, c'était les non-originaires qui étaient le gouverneur, qui étaient ci et cela. Et on est revenu aux provinciaux, on est revenu aux originaires. Et aujourd'hui, c'est l'élection a lieu au niveau provincial, et il n'y a pas de raison que quelqu'un de Manima soit élu à Bandundu, soit élu au Bakongo. Comme depuis la Gikanda a fait l'exception de se faire élire député national au niveau de Goma, n'est-ce pas? Donc, je pense que l'originaire, s'il est soumis à des règles strictes, aux critères précis à des hommes qui sont discutés à l'avance, qui sont acceptés par tout le monde, il fera le travail sous la surveillance de ses congénères. Donc, originaire ou non originaire, pour moi, ce n'est vraiment pas le problème. C'est lui qui est capable de réaliser un acte, d'accomplir un acte, de réaliser une œuvre commune qui est acceptée par tout le monde. C'est celui-là qu'il faut élire.
Alors,
et de préférence, bien sûr, que l'homme du Bas-Congo soit l'administrateur du Bas-Congo, parce qu'il est supposé connaître mieux le mécanisme, le méandre, et même les dictons de la population sur laquelle il va pouvoir administrer ses règles. Et troisième secteur, c'est la santé. Lorsque quelqu'un est malade, vous le soignez, alors vous le récupérez. Vous traînez dans les discussions byzantines, administratives et politiques, la personne va mourir. Donc, je pense que c'est fondamental que on taise le quota et qu'on mette la priorité sur la qualité des ressources humaines.
Professeur, si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, parce que la qualité de votre ligne a tendance à se dégrader à certains moments. En même temps, je vous pose la question, professeur, en tant que spécialiste en éducation, quel est votre point de vue au sujet de la gratuité de l'enseignement? Le conseiller Jovin Moukadi a évoqué que cela avait amené certains problèmes, notamment les problèmes d'effectifs, la formation des enseignants. Quel est votre point de vue à ce sujet?
Oui, j'étais heureux d'écouter monsieur le conseiller parce que je constate que le ministère a effectué un beaucoup d'efforts et continue à faire de l'enseignement. C'est un problème.
Professeur.
Est-ce que la gratuité s'improvise?
Professeur.
Oui.
On a quelques difficultés à vous capter. Je vous prie encore si c'est possible de vous déplacer ou de sortir si vous êtes dans une salle.
Oui, je suis dans une pièce, oui.
Voilà. Le temps...
Ça va mieux maintenant?
Oui, essayons là.
Voilà. Donc, je disais que la gratuité, c'est une très bonne chose. Mais la gratuité doit être planifiée. La gratuité doit être ordonnée. Et la gratuité doit devoir être expérimentée quelque part. Peut-être que c'est ça qui se fait maintenant. Parce que les 11 provinces ne sont pas concernées jusqu'à maintenant. C'est comme ce qu'on est en train de tenter avec la mutuelle des enseignants au niveau de l'EPSP. C'est une province qui est concernée. Puis il y aura deux, il y aura trois, il y aura quatre. On va couvrir les 11 provinces lorsqu'on aura correctement affiné les mécanismes de gestion, d'organisation et d'affectation de ressources. Je crois que tel ne fut pas le cas pour la gratuité de l'enseignement. Le Ghana est en difficulté aujourd'hui. Parce que dès qu'on a rendu l'école gratuite, l'école s'est dépeuplée. Alors chez nous, la gratuité, ça c'est toujours notre problème, la gratuité, je ne sais pas si elle porte sur l'ensemble d'éléments sur lesquels les parents interviennent. Parce qu'il n'y a pas que le fait de Minerval. Il y a les uniformes, il y a les cahiers, il y a toutes sortes d'objets didactiques, pédagogiques indispensables pour que l'élève soit bien assis à l'école et apprenne.
Merci.
Bon, j'ai eu la chance d'avoir enseigné à l'école primaire, à l'école secondaire et maintenant à l'université. Et l'université, c'est un peu le fêtière où on constate le progrès réalisé à l'école primaire, à l'école secondaire. Ces deux dernières années, je dois le dire, nous avons été surpris par la dégradation de la qualité des étudiants qui sont venus en premier graduat. Donc il y a un problème à l'école secondaire. Est-ce que c'est la gratuité ou je ne sais pas, mais je ne pense pas que c'est la gratuité.
Merci.
Oui.
Merci professeur, permettez que je vous arrête à ce niveau, le temps d'avancer dans cette émission. Le gouvernement congolais réitère sa position de voir les élèves de la RDC tout entière reprendre le chemin de l'école le 3 septembre prochain. Ainsi a déclaré le ministre de l'EPSP en réponse à la demande de la société civile du Nord Kivu de reporter la rentrée suite aux méfaits de la guerre dans certains territoires de la province.
Pour Maker Mwangu, la situation qui prévaut dans la région est une réalité, mais le gouvernement ne peut hypothéquer la vie scolaire des enfants congolais. À cet effet, certaines mesures sont en train d'être prises au niveau provincial et national pour que les élèves concernés puissent retrouver le chemin de l'école le jour de la rentrée. Maker Mwangu l'avait dit au micro de Jacques-Yves Molima.
Nous sommes en train de prendre des dispositions pour que les enfants, en tout cas, ne soient pas perturbés dans leur formation. Et au niveau de la province, il y a certaines dispositions qui seront prises parce que nous avons dû échanger avec la ministre provinciale et les autorités provinciales pour les mesures pratiques au niveau local. Au niveau du gouvernement, nous sommes en train aussi de prendre certaines mesures. Je crois que d'ici là, nous allons organiser urgentement une réunion qui va prendre en compte un certain nombre d'éléments. D'abord, il fallait les identifier, on les a identifiés et localisés. Et nous allons prendre des dispositions pour que ses enfants étudient dans des conditions où ils se trouvent. Il y a un problème de frais scolaires. Nous allons essayer de résoudre ces problèmes pour ces enfants qui sont en mouvement, qui sont en déplacement. Qu'est-ce que nous allons faire pour permettre à ces enfants d'étudier comme les autres qui sont pour le moment sédentaires?
C'est-à-dire que le gouvernement va s'y plier aux frais?
Nous allons entreprendre des dispositions pour aller dans ce sens-là.
Monsieur le conseiller Jovin Moukadi, avant d'aborder la situation sécuritaire, est-ce que vous confirmez, comme l'a dit le ministre Maker Mwangu, que la rentrée scolaire aura bel et bien lieu le lundi 3 septembre?
Je ne crois pas. La rentrée scolaire aura bel et bien lieu le 3 septembre, tel que c'est prévu dans le calendrier scolaire 2012-2013, adopté depuis le mois de juin 2012.
Toutes les dispositions ont été prises, parce qu'on sait souvent qu'à quelques jours ou juste quelques jours après la rentrée, c'est des mouvements, des protestations par-ci, par-là. Est-ce que vous pouvez confirmer que toutes les dispositions ont été prises?
Toutes les dispositions ont été prises. Je crois que la rentrée scolaire se prépare avant même la clôture de la précédente année. Et nous avons démarré cette préparation depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, nous sommes à la veille de la rentrée. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'on dise qu'il n'y a pas de rentrée le 3. Le 3, il y a bel et bien rentrée scolaire.
Tout se passe bien avec vos partenaires, les enseignants, les syndicats, tout va bien.
Oui, tout se passe bien. Je crois que, comme d'habitude, je l'ai dit ici, que l'enseignement, c'est une affaire de tous. Nous sommes dans une organisation qui exige que le mode soit le partenariat. Quand nous avons fait le calendrier, on l'a fait avec tous les partenaires. Et maintenant, nous sommes en train de cheminer avec tous les partenaires vers la rentrée scolaire du 3 septembre 2012. Et là, comme pendant cette période, nous recevons toujours les cahiers de charges qui viennent de nos partenaires, notamment de l'intersyndicale des enseignants. Nous avons reçu ces cahiers de charges et nous pensons nous y penser au moment opportun parce que, comme vous le savez, le budget 2012 n'est pas encore exécuté parce qu'en fait, qui dit cahier de charges, là-dedans, il y a toujours des éléments liés
aux
finances.
Alors, on a suivi tout à l'heure la situation sécuritaire à l'est, au nord Kivu, par exemple, reste préoccupante. Et comment ça va se passer concrètement pour ces enfants-là? Tout à l'heure, Jean Bosco Pouna a dit que c'était un vœu pieux de la part des ministres provinciaux de l'avoir évoqué du moment qu'il n'y a pas de solution.
Je crois que dire que c'est un vœu pieux, c'est un peu trop dire. Je crois que chaque Congolais a un mot à dire sur ce qui se passe à l'est du pays. Et en tant que responsable provincial, en tant que responsable central de l'éducation, comme vous le savez, quand il y a la guerre, l'une des victimes principales, c'est l'éducation. Parce qu'en fait, chaque individu au moins concerné par l'éducation. S'il n'est pas élève, il est enseignant. S'il n'est pas enseignant, il a au moins un enfant à l'école. Et nous disons que l'éducation aussi peut aider à ce qu'il n'y ait pas de guerre. C'est comme ça que d'ailleurs, bientôt là, au mois d'octobre, nous allons organiser un forum de dialogue politique national sur l'éducation à la paix. Un processus que nous avons entamé depuis que le ministère de l'EPSF a entamé depuis 2 ans. Et les ministres provinciaux ou le gouvernement tout entier s'organisent, le ministre l'a dit, pour que ces enfants-là ne perdent pas l'année scolaire. Nous savons que en cas de guerre, il y a des situations d'urgence qui permettent à ce que le gouvernement, avec les partenaires, notamment les ONG et d'autres structures qui s'intéressent à ces urgences-là, pour mettre les mécanismes en place qui permet à ce que les enfants puissent étudier, non pas dans les zones de conflit, mais un peu plus en dehors des zones sécurisées où ils peuvent suivre normalement leur cursus scolaire.
Et donc, tous les enfants du Nord Kivu qui vous suivent en ce moment peuvent être assurés qu'ils reviennent au cours lundi.
Le gouvernement est en train de prendre les dispositions pour que le 3 septembre, tous les enfants rentrent à l'école. Et nous devons, je crois, il ne faut pas toujours parler de vieux pieux parce que nous sommes en train d'avancer. Et je voulais là, excusez-moi, intervenir sur ce que le professeur Martial venait de dire. Je crois que les enfants ici de la gratuité ne sont pas encore à l'université pour qu'on dise que les 2 ans, il y a 2 ans, on constate que la qualité a baissé. Je crois que les enfants issus de la gratuité ne sont même pas encore à l'école secondaire.
Voilà. Jean Bosco Pouna, êtes-vous prêt pour la rentrée lundi le 3 septembre?
Oui, merci beaucoup Alain. Nous avons été d'ailleurs aujourd'hui en Assemblée Générale. Et il faut dire que nous allons constater la rentrée.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, c'est une rentrée de précarité. Parce que, de tout point de vue, nous nous rendons effectivement compte qu'il y a encore beaucoup de problèmes. La rentrée, c'est une date, mais l'année scolaire, c'est 222 jours de cours. Et donc, pour nous, en tant qu'enseignants, autorisés à enseigner, nous savons de quoi nous parlons. Donc, le 3 septembre, certes, c'est ça la date, le pouvoir organisateur a fixé la rentrée, mais par contre, voici quelques constats que nous avons faits. Des milliers d'enseignants NP, non payés, ce sont des enseignants qui sont sur les états de paye, sur les listings de paye. 2 ans, 3 ans, ils prestent sans être payés. Le ministre est là, il regarde. Nous avons, par exemple, le problème de la marchandisation de l'éducation dans les écoles, qui est caractérisé par la fixation exagérée et incontrôlée des frais scolaires. Le ministre a émis une circulaire qui n'est pas respectée. On regarde, on ne fait rien. Dans les écoles, on demande 300, 400 dollars aux parents, aux ménages pauvres. L'autorité des tutelles ne fait rien. Nous pensons qu'elle va devoir se réveiller de son sommeil. Nous avons également le maintien des enseignants dans un barème de misère. Depuis que le ministre actuel est arrivé aux affaires, en tout cas, nous n'avons pas connu d'augmentation substantielle. Hein, vous allez voir, par exemple, à l'université, les camarades de l'université ont des primes statutaires institutionnelles. Ils ont même des avantages. Qu'est-ce que les enseignants de l'EPSP ont fait? Donc, de ce point de vue-là également, nous ne voyons pas le véritable combat du ministre par rapport à l'amélioration des conditions de vie de l'enseignant qui, du reste, est véritablement nécessaire pour que nous ayons la qualité. Nous avons également un problème, c'est le problème relatif au non-versement des frais de fonctionnement. Comment les écoles vont-elles véritablement fonctionner sans qu'elles aient les frais de fonctionnement? Peut-être que le conseil va devoir nous éclairer, mais à notre entendement, avec les informations que nous avons maintenant là, vraiment nous savons que les écoles n'ont pas encore réussi les subsides de fonctionnement. Mais au-delà de tout, il y a des enseignants, jusqu'au moment où nous parlons, qui ne sont pas encore payés. Vous savez, avec le système de bancarisation que nous avons soutenu, mais nous avons l'impression que le ministère ne le soutient pas. C'est pourquoi au niveau...
Comment ça?
Oui, mais parce que les données que le Sécopé envoie au niveau de la direction des payes, ce sont des données incomplètes. Alors, nous ne comprenons pas comment les enseignants qui étaient payés régulièrement, lorsqu'ils arrivent dans les banques, parfois, tantôt ils sont omis, tantôt on leur dit non, il faut encore attendre, et lorsque nous allons vérifier à la direction de la paye, on nous dit qu'il y a des agents qui sont allés au niveau du Sécopé, mais ils n'obtiennent pas toujours les vraies données, les données réelles. Donc là aussi c'est un problème, c'est sur fond de frustration que le gouvernement va organiser la rentrée
avec cette question des guerres que nous regrettons, cette guerre qui nous est imposée, mais au niveau interne, les choses ne marchent pas. Pourquoi doit-on imposer aux parents des uniformes à l'école? Pourquoi doit-on ne pas respecter les instructions du ministre? Parce que nous savons que le ministre il a demandé, il a plafonné, il a chiffré ce que les parents doivent payer, mais dans les écoles, ce n'est pas ça. Et donc, les instructions ne sont pas respectées. Nous pensons qu'en tant que syndicat, il est important quand même que le ministre protège et les enseignants, mais aussi les élèves, mais, les enfants congolais.
Par exemple, vous êtes secrétaire général du syndicat des enseignants des écoles conventionnées catholiques. C'est le même reproche qu'on formule à l'endroit des écoles catholiques. Qu'est-ce que vous faites?
Oui, mais naturellement, vous savez que les écoles conventionnées catholiques, ce sont des écoles de l'État d'abord. Donc, nous émargeons du budget de l'État. La première autorité, l'autorité des tutelles, c'est le ministère, c'est le ministre. Autant nous déplorons ce qui se passe au niveau de nos écoles, parce que c'est un véritable recul. Il y a 2-3 ans, on respectait quand même les instructions venant du ministère. Mais là, en tout cas, c'est une exagération sans nom. Mais le premier responsable, tout à fait, c'est l'autorité des tutelles. C'est lui qui est le régulateur et c'est lui qui peut sanctionner.
Alors, juste un mot avant que je ne donne la parole au professeur Martiala sur le dialogue social entre vous et le ministère.
Non, le dialogue social, il est véritablement en panne. Nous regrettons que le ministre des tutelles puisse continuer à discuter avec des syndicats qui ne sont pas porteurs de mandat, des syndicats qui n'ont jamais organisé des congrès. Ils discutent avec cette catégorie de syndicats. Et pendant longtemps, pourquoi? Nous ne savons rien. Nous sommes un syndicat, nous avons un discours, nous avons à protéger les intérêts des enseignants. Malheureusement, c'est un partenariat sélectif et clientéliste qui n'honore pas le ministre et tous ses collaborateurs.
Professeur Martiala, je vous donne la parole juste après cet élément. La rentrée scolaire chaque année s'amène avec son lot de problèmes. En plus de la pratique qui est en vogue ces derniers jours, celle de la confirmation d'inscription d'élèves, même les anciens qui ne changent pas d'école, les pauvres parents doivent subir les élans cupides des gestionnaires des écoles. Ces affairistes cachés derrière la peau de chefs d'établissement ont presque fini par transformer leurs établissements scolaires en maisons de commerce. Tenez, les uniformes, les tenues de gymnastique et maintenant même les objets classiques sont vendus à l'école. Le caractère obligatoire que revêt la pratique ainsi que le prix fixé parfois supérieur à celui du marché donne matière à réflexion. Le ministre de l'EPSP, Makair Mwangu, promet des sanctions à l'endroit des gestionnaires des écoles auteurs de ces actes qu'il déplore. Jacques-Yves Molima.
Si dans ses débuts, la pratique avait comme sens uniformiser la tenue des élèves d'une part et aider les parents d'autre part à acquérir ces objets à l'école, aujourd'hui la pratique a changé de sens. C'est l'argent et rien que l'argent qui motive les gestionnaires des écoles. Que ce soit les écoles privées, que ce soit les écoles officielles dites grandes et prestigieuses gérées par les catholiques et les protestants, la pratique reste obligatoire. Une chemise ou blouse blanche parfois mal cousue avec un tissu de mauvaise qualité vendu à un prix supérieur à celui sur le marché. D'autres écoles vendent même les pagnes appelées les tenues de fête de l'école. Pour le ministre de l'EPSP, cette situation ne doit plus continuer. Makair Mwangu.
Si les parents constatent que c'est au-dessus du prix du marché, nous sommes là, ils doivent nous alerter. Nos collaborateurs descendront aussi au niveau de cette école. On ne peut pas laisser cette situation continuer. À tous les gestionnaires, celui qu'on va trouver en train de faire des choses comme ça, en tout cas, il s'apprendra à lui-même. Quels que soient les réseaux, quels que soient les systèmes de gestion de cette école.
Pour les gestionnaires des écoles, l'État ne donne pas assez de moyens pour le fonctionnement et ils ne peuvent que recourir à cette pratique. Mais le ministre parle plutôt d'une mauvaise gestion.
Nous donnons suffisamment de ressources, mais il est question que ces ressources soient connues, utilisées à bon escient.
La balle est donc du côté des parents pour veiller sur tout ce qui se passe dans des écoles.
Professeur Martiala, vous avez regretté tout à l'heure la baisse de la qualité du niveau de l'enseignement. Là, décidément, l'école est devenue une bonne affaire. Professeur.
Oui, je regrette d'avoir donné la situation générale et qui a tourmenté le conseiller Oukadi. Je ne parlais pas de la gratuité par rapport à la baisse aujourd'hui. Et c'est une situation générale que j'ai donnée. Effectivement, nous avons un problème à l'école. Le problème à l'école, c'est que depuis 1996, nous avions opté pour la gestion partenariale. Le ministre Makair Mwangu, il dort, il se réveille à Kinshasa. Les décisions de fonctionnement des écoles se prennent au niveau local. Donc ce sont les comités scolaires locaux qui devaient être pleinement responsables parce que là-dedans se trouvent les parents, les gestionnaires au quotidien de l'école, les responsables des entreprises environ de l'école, les administrateurs du pouvoir public sont membres de ces différents comités. Donc c'est là que la question des régulations devait être observée et même examinée et résolue. Parce qu'il n'aura pas les yeux. Ces yeux, ce sont les différents comités de parents. Ces yeux sont les différentes provinces éducationnelles qui ont été créées. Il y en a 30 sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Donc, voilà, si les normes sont claires, si les contraintes sont données dans l'application de ces normes, ils sont appropriés de ces normes.
Professeur.
Je pense que ce qu'on explose aujourd'hui, vente des uniformes à l'école, surenchères sur le frais des sixièmes, trouverait une réponse. Mais si on est dans le laxisme, si on est dans le souci de centraliser le tout, eh bien, on n'y arrivera pas. Ça, c'est ma position. Et enfin, je voulais dire qu'il ne faut pas prendre la guerre comme un fonds de commerce. Il faut que les gens, et tous les gens, s'organisent pour faire taire les armes et créer un climat de confiance, un climat d'harmonie, Kinshasa, Goma, Rutshuru, Masisi. Mais les gens de Masisi sont à Kinshasa.
Merci.
Les gens de Rutshuru sont ici, ceux de Goma sont ici. Parce qu'il y a un dialogue qui va être possible entre ceux qui sont ici. Nous lisons dans les journaux qu'ils participent soit au renforcement de ce qui s'est passé là-bas, ou ils peuvent donc participer à la modification de la situation pour que l'éducation, les élèves et les écoles fonctionnent et rentrent effectivement le 3 septembre sans qu'il y ait entrave.
Merci, professeur. Monsieur le conseiller Jovin Moukadi, il nous reste moins de 4 minutes pour terminer l'émission. Vous avez suivi Jean Bosco Pouna, rentré sous fond de crise. Comment vous y répondez rapidement?
Je crois que ce fond de crise, ça n'engage que Jean Bosco Pouna. Je crois que dans tout ce qu'il a dit, nous échangeons avec des syndicats responsables. Ils savent que nous sommes dans un partenariat, nous ne sommes pas dans une guerre ou dans une discorde. Nous sommes dans un partenariat et ceux qui participent à ce que nous sommes en train de faire, ensemble d'ailleurs, savent d'où nous venons et où nous allons. Je ne veux pas faire ici le bilan de son Excellence Monsieur le Ministre Macaire, mais je crois que nous sommes en train d'aller doucement mais sûrement, tout en planifiant nos actions vers ce que nous voulons, que chaque enfant congolais ait accès à l'éducation et à une éducation de qualité.
Alors en guise de conclusion, Monsieur le conseiller Jovin Moukadi, est-ce que vous pensez que cette conférence des ministres provinciaux de l'EPSP aura un quelconque impact sur l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants?
Je crois qu'il y a toute une série de réformes qui sont menées aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Ce que nous voulons, c'est aller de l'avant et nous pensons qu'avec ce type de conférence, ces dialogues permanents, j'insiste là-dessus, c'est tout justement pour améliorer la situation de l'enseignant qui est au centre même. Merci. Du système éducatif.
Jean Bosco Pouna, est-ce que vous pensez que cette conférence aura un impact quelconque sur le vécu?
Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible simplement parce que nous avons été au débat d'orientation budgétaire. Aujourd'hui, on parle du budget de la mandature. Donc, c'est jusqu'en 2016. Et lorsque vous scrutez les chiffres qui sont présentés au titre d'amélioration des conditions de vie et de travail, nous avons fait les calculs. C'est 5000 francs qu'on ajoutera à chaque enseignant chaque année. Vous comprenez? Donc, le conseiller a tort de dire que cette conférence peut produire. Donc, nous pensons que l'éducation, c'est un domaine de souveraineté. Il faut absolument que l'État mette des moyens si nous voulons que demain, la jeunesse prenne la relève.
Professeur Martial, a juste un mot en guise de conclusion.
Le mot est que un système éducatif n'a pas seulement besoin des hommes, il a besoin effectivement des moyens et des moyens suffisants. Jusque-là, la politique éducative n'a toujours pas été correctement définie. Même quand moi j'étais dans le secteur, c'était le combat et tout le temps. La condition de l'enseignant, elle est toujours médiocre.
Merci professeur, merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne suite des programmes sur Radio Kapi. Au revoir.